toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Au sommaire de cette édition, la situation est confuse. À Nampala, les autorités annoncent avoir repris le contrôle de la localité. Cependant, de sources locales, aucune présence des forces maliennes n'est remarquée dans la ville. Le gouvernement a décrété hier un deuil national de 3 jours et réinstauré l'état d'urgence pour 10 jours à compter d'aujourd'hui. L'opposition s'interroge sur l'utilité de cette mesure. Les victimes de l'inondation de Bara dans le cercle d'Ansongo sont toujours sans aide, selon le maire. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la localité en début de semaine ont fait plus de 690 familles sans abri. Arrestation de trafiquants de drogue, l'Office central de lutte contre les stupéfiants a interpellé cette semaine à l'aéroport de Bamako-Sénou un trafiquant avec 37 boulettes de cocaïne. Mohamedou Touré pour le développement de ces titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernière nouvelle, affrontement en cours à Kidal. De violents combats ont commencé depuis cet après-midi entre le HCUA et le Gacha. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Une tension existe depuis quelques jours entre les deux groupes armés autour de la gestion administrative et militaire de la ville de Kidal. Mardi dernier, un autre combat entre ces deux mouvements avait fait 2 morts dans la même zone. Ces affrontements interviennent quelques jours après la signature d'une entente entre la CMA et la plateforme pour résoudre ce problème. Je le disais dans les titres, situation confuse à Nampala. Les autorités annoncent avoir repris le contrôle de la localité. Cependant, de sources locales, aucune présence des forces maliennes n'est remarquée dans la ville. Un deuil national de 3 jours a été décrété depuis hier. Le chef de l'État qui a réinstauré l'état d'urgence pour 10 jours est à Ségou aujourd'hui pour un hommage national aux victimes. Le point avec Sékou Gadjigo.
À Nampala, de sources locales, rien ne bouge. La population est toujours terrée chez elle, affirment les autorités locales. Elles appellent l'État à renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville. Selon un élu de la localité, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il n'y avait pas de présence remarquable des forces maliennes dans la localité. Ce représentant de l'État refuse aussi de réagir sans la présence des FAMA pour assurer sa sécurité, dit-il. Le ministre de la Défense a pourtant annoncé ce mardi que l'armée a repris le contrôle de Nampala et qu'une riposte est engagée pour traquer les assaillants. Toutefois, certaines sources révèlent que Nampala est toujours contrôlée par les djihadistes. Cette information est démentie par la direction de l'information et des relations publiques des armées qui confirme que l'armée malienne contrôle bel et bien Nampala. Selon un des responsables de la DIRPA, même si les militaires maliens ne sont pas présents dans la ville, ils sont aux alentours de la zone pour contrôler et traquer les djihadistes. Cependant, précise l'officier de communication, certaines informations ne doivent pas être communiquées pour éviter de dévoiler les stratégies des FAMA aux forces ennemies. À Nampala, la situation sécuritaire reste donc tendue. Le président Ibeka s'est rendu aujourd'hui à Ségou au chevet des blessés de l'attaque. Il doit aussi rendre un hommage national aux victimes.
Le gouverneur de la région de Ségou a rendu visite aux blessés de l'attaque de Nampala hier à l'hôpital régional. Georges Togo a apporté le soutien et la compassion des autorités nationales et régionales. Il a aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux malades. Selon le directeur de l'hôpital, la vie des blessés admis aux urgences n'est plus en danger. Suite à l'attaque meurtrière de Nampala qui a coûté la vie à 17 soldats maliens, le gouvernement a réinstauré hier l'état d'urgence pendant 10 jours. L'opposition dit comprendre la mesure mais s'interroge sur l'utilité de cette mesure au regard des résultats mitigés. Elle demande au gouvernement de tirer les leçons du passé et de prendre d'autres mesures sécuritaires pour protéger la population. Djigiba Keïta, secrétaire général du PARENA, joint au téléphone par Oumar Weigallo.
Dans le principe, vu la situation, on peut bien comprendre la prolongation de l'état d'urgence, même si jusqu'à preuve du contraire, les effets attendus ne sont pas au rendez-vous. Pour 3 mois, qu'on s'occupe davantage de la sécurité des Maliens et de leurs biens, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire aujourd'hui.
Quel sera l'impact de cette nouvelle mesure?
En espérant que le gouvernement va tirer les leçons de l'état d'urgence parti de temps passé en état d'urgence, nous espérons que les mesures de sécurité vont être renforcées pour que toutes les tueries quotidiennes auxquelles on assiste ne continuent pas. Parce que malheureusement, comme nous l'avons dit dans notre communiqué, le sang malien coule beaucoup malgré l'état d'urgence. Donc l'insécurité est grandissante. Les forces de défense et de sécurité, on se rend compte qu'elles ne sont pas encore à la hauteur pour résister aux terroristes qui attaquent un camp aussi important que le camp de Nampala, avec beaucoup de matériel emporté, beaucoup de morts.
À Bamako, les avis des citoyens sont partagés sur la prorogation de l'état d'urgence. Pour certains, la mesure permet de mieux sécuriser la population. D'autres, en revanche, pensent que l'État doit être capable d'assurer la sécurité même sans état d'urgence. Écoutons quelques réactions au micro de Juliette Koulibaly.
Bon, je pense que la réinstauration semble nécessaire après l'attaque qu'il y a eu à Nampala. On se demande même s'il n'aurait pas fallu poursuivre avec cet état d'urgence-là, parce que même une prorogation de 10 jours, est-ce que ça sera suffisant?
L'état d'urgence décrété par le gouvernement malien, vraiment, c'est quelque chose qui tombe à pic quand le pays n'est pas du tout stable. Même si le président veut qu'il n'a qu'à prolonger jusqu'à 6 ou 7 mois pour que les citoyens puissent se sentir chez eux.
Ça renforce les pouvoirs de l'État de mener des investigations, de mener des enquêtes, surtout à des heures souvent qui sont réglementés.
Maintenant, ils ne font que décréter l'état d'urgence sans raison. Problème, c'est vrai, nous sommes dans une situation d'insécurité. Mais c'est l'insécurité qui persiste. Ce qui veut dire que le gouvernement est en train de montrer, en dessous de cet état d'urgence-là, qu'ils sont incapables de gérer le pays sans état d'urgence.
À Bara, dans le cercle d'Ansongo, les victimes de l'inondation sont toujours sans aide, selon le maire. Les 17 et 18 juillet derniers, de fortes pluies se sont abattues sur la localité. La mairie estime à plus de 690 le nombre de familles sans abri, en plus d'importants dégâts matériels. Saler Humtalfo Touré est le maire de la commune de Bara. Il est joint au téléphone par Idrissa Sakou.
115 mm, ça dépend de nos appareils selon les localités. Les maisons sont tombées, le niveau d'eau a augmenté sur le goudron. Il y a une femme qui est en état, qui était blessée, elle a été immédiatement soignée. Un jeune aussi, qui a été blessé, a été soigné. Avant-hier après-midi, dans l'heure au ruissellement, un enfant s'est noyé.
Il y a eu en tout combien de sans-abri?
Sur l'ensemble des 5 localités, on a dénombré 692.
692 familles?
692 familles sans-abri. C'est vu, il y a Bara, il y a près 300, à Tabango, il y a 2. Ça et quelques, à Tanal il y a 80, à Banganoforas il y a 28 et à Kelbougou 8.
Aujourd'hui, tous les sinistrés sont pris en charge.
Qui peut les prendre en charge? Les sinistrés sont chez leurs parents.
Côté administration, quelle a été la réaction?
À 7h du jour, l'administration locale dans Songo, le préfet, le sous-préfet, quelques minutes après, Gao, le gouvernorat, la direction régionale du développement social, la protection civile était arrivée.
Un bébé de 2 mois a été retrouvé mort mardi dernier dans une mare suite à une inondation dans la localité de Bara. D'après sa mère, elle l'avait laissé dans la tente pour aller au fleuve. À son retour, elle a trouvé l'enfant noyé. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Saisi de 37 boulettes de cocaïne par l'Office central des stupéfiants le lundi dernier, le trafiquant en provenance de l'Amérique latine a été arrêté à l'aéroport de Bamako-Sénou. Son identité n'a pas été révélée, mais il est âgé de 38 ans. Le suspect a ingéré une quantité de 592 grammes de cocaïne. La valeur de cette drogue est estimée à 24 millions de francs CFA. Selon les responsables de l'Office central, 150 personnes ont été emprisonnées depuis la création de la structure en 2011. En 2016, 4 dossiers sont au tribunal de la commune 1. L'enquête est en cours pour retrouver d'éventuels complices à Bamako. Lieutenant-colonel Adama Tunkara est directeur de l'Office central des stupéfiants. Il est au micro de Imran Akilumaïga.
Les différentes vérifications l'ont amené à reconnaître qu'il transportait de la cocaïne qu'il avait ingérée à partir du pays du départ. La quantité actuellement est de 37 boulettes. Chacune des boulettes pèse environ 16 grammes, ce qui fait un poids total de 592 grammes de cocaïne. La valeur, selon le prix du marché international, estimé à peu près à 24 millions. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être présenté au procureur et les enquêtes vont se poursuivre pour éventuellement identifier les destinataires à Bamako.
À Caille, des travaux ont été entrepris sur le pont de Caille. Suite à ce chantier, les autorités ont instauré un système de passage alterné pour les gros porteurs. Cette perturbation du trafic n'est pas sans conséquence sur la circulation à l'intérieur de la ville et l'approvisionnement en marchandises. La population crie à une situation insupportable et demande aux autorités de Bamako un deuxième pont. Une marche a d'ailleurs été organisée le week-end passé pour la cause. Voici les réactions de certains habitants sur la question depuis Caille. Ils sont interrogés par notre correspondant Baraka Fofana.
Bon, vraiment, j'ai un très grand souci. J'ai peur que ce pont, vu sa longueur et sa fréquentation, le jour où il va s'effronder brutalement et en pleine journée, on aura plus de 84 morts.
Notre revenu, c'est le pont-là. De Caille à Bamako, de Bamako à Caille, de Caille à Dakar. Tout passe par ce pont. Il nous faut un deuxième pont.
Aussi, nous avons appris que ce pont a été construit, non pas pour ces gros porteurs, mais pour les petits camions et les voitures. Le pont a été coupé, ils ont fait des réparations. Donc après ces réparations, le phénomène continue. Nous souhaitons quand même que Caille soit doté d'un nouveau pont qui est capable de faire traverser les poids lourds.
Alors que ça fait une source de revenus pour le Mali, dans la mesure où tous les gros porteurs quittent le Sénégal pour traverser par Caille, je crois qu'il faut un deuxième pont.
C'est une grande difficulté pour nous. Voir l'importance du transport caïsien au niveau du développement du Mali.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho de nos régions, une cinquantaine d'acteurs communautaires et de journalistes bénéficient d'une formation en gestion et résolution des conflits à Sikasso. La session qui a débuté hier a été initiée par le projet Gestion des conflits non violents. Le but est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile en matière de prévention et de gestion des conflits. La rencontre va durer 3 jours. Des caisses de grenades, de munitions et de roquettes ont été découvertes hier dans un local à Ndiawa, un quartier situé dans la périphérie de Gao. Selon des témoins, cette habitation servait de planque aux djihadistes au moment de l'occupation. La force Barkhane et l'armée malienne ont pu déterrer les engins. La zone a été déclarée dangereuse par les services de sécurité. C'est tout pour cette édition. Vous aurez droit aujourd'hui au deuxième numéro de la série de débats délocalisés dans la région de Tombouctou. Bonsoir Arkia Touré.
Bonsoir Mohamedou Touré.
Alors ce soir, vous allez parler de l'insécurité à Tombouctou.
Oui, effectivement Mohamedou, nous sommes à Tombouctou avec notre partenaire IMERAP, l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Ce soir, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la région, un débat qui sera animé en soirée. Les échanges vont porter sur l'insécurité, sur les actes routiers, sa gestion, les obstacles à la paix, entre autres. Nos invités sont Khalifa Ag Imama, l'adjoint du maire de Tombouctou, Baba Moulay Haïdara du Forum régional de la société civile, Boubacar Bouldo Hamadi, il est le point focal de la CMA à Tombouctou, et Darou Keifoul, je vais présenter la plateforme ici à Tombouctou. Voilà.
Merci Arkia Touré. Je rappelle que le débat se fera en direct depuis Tombouctou et ce sera en langue sonraïa.